Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, mon invité est une éditrice. On va parler faits divers, c'est fascinant. Visite de bibliothèque, celle de Franck Tillier aujourd'hui. Et enfin, comme chaque semaine, les chroniqueurs de l'émission nous rejoindront à la fin avec de la bande dessinée, de la littérature jeunesse et encore des romans. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Vous vous rappelez sans doute, j'avais rarement vu ça dans les maisons de la presse, c'était en 2020, des files d'attente et des pénuries pour le numéro de Society consacré à l'affaire Ligonnès, deux numéros pour faire le tour de ce fait divers avec beaucoup de nouveaux éléments, mais surtout une manière d'écrire. C'est ce qu'on appelle la narrative non-fiction, je le dis en anglais, parce que oui, les anglo-saxons sont un peu à la pointe de ce courant entre le journalisme et le roman, à la de sang-froid de Truman Capote, les faits, mais racontés avec style pour la faire courte. Or, donc, malin, les gars de Society en ont fait un petit livre de ce reportage. Et maintenant, l'éditeur culte 10-18 a repris le flambeau et depuis mars, des journalistes de Society s'emparent d'un fait divers américain. À chaque fois, c'est un état différent. Il y a eu le Golden State Killer, déjà, en Californie. Un serial killer retrouvé grâce à l'ADN, mais des décennies après ses méfaits. Il y a eu l'affaire Alice Crimmins dans les années 50, je crois. Une femme accusée à tort d'avoir tué ses enfants, c'était à New York. Et voici l'inconnu de Cleveland qui vient de paraître. Incroyable histoire, on va en parler avec la responsable de la collection True Crime chez 10-18, Elsa Delachère. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous parler de ces livres très simples, courts, qui donnent envie. On va parler du fond, mais quand même la maquette, l'identité visuelle. Alors, je vous laisse la décrire, hein, parce que moi, j'y arrive pas trop. C'est très dur de montrer ça à la radio, comme ça. Mais voilà, vous voulez la décrire et comment vous en êtes arrivé là?
Alors, en fait, c'est un excellent graphiste qui l'a fait. Il faut lui rendre hommage. Il s'appelle Nicolas Caminade. Et c'est par le travail absolument phénoménal de notre directrice artistique, Pauline Rico, qui, chez 10-18, travaille avec ce graphiste. Et il faut bien dire que, d'emblée, la maquette s'est imposée. C'est-à-dire qu'on a briefé, comme on fait souvent dans les maisons d'édition. On demande un certain nombre de choses, on montre des images en référence, et c'est la première version qui a été la bonne tout de suite. Et il y a eu une adhésion immédiate de l'équipe, parce qu'en fait, elle marche très très bien. Alors pour la décrire, c'est compliqué, parce qu'effectivement, elle joue sur plein de codes.
Ça fait des cases.
C'est ça, ça fait des, il y a des bandes horizontales et verticales noires, on a un fluo à chaque fois, qui donne aussi une très belle visibilité au livre. C'est des livres qui sont, dont le fond est blanc, et comme ils sont classés en polar, ça se voit sur une table de polar où tous les livres sont noirs.
Ah, oui.
Donc il y a eu un choix aussi de cet ordre-là.
Ah oui, ça c'est le gars de chez Sonatine, le type qui fait les couvertures dont j'oublie le nom, qui est une Rémi sorte de
Pétain.
Génie. Voilà. Et qui m'avait expliqué un jour pourquoi cette couverture était blanche. Et ils avaient un peu lancé l'idée. Et c'est vrai que c'est... On n'y pense pas, c'est génial, je trouve. L'importance de la couverture. Alors, c'est un hasard, mais il se trouve que j'avais Oliver Gallmeister la semaine dernière, des éditions Gallmeister, qui fait des livres, des objets aussi magnifiques, des couvertures fantastiques. C'est fondamental.
Ah bah, surtout, alors clairement, surtout en poche. C'est-à-dire que le format poche, le prix du poche, se doivent d'avoir une attractivité encore plus forte que le grand format. Et donc, tout se joue beaucoup, beaucoup sur la première impression que fait le livre. Donc, le livre, c'est la couverture, le titre. Et sur ces titres-là, sur ces couvertures-là, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est mettre une accroche, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du contenu. En fait, on ne connaît pas les auteurs, on ne connaît pas les histoires, on reconnaît la marque, on voit un nom de l'État dans lequel l'histoire se passe, qui est inscrit sur la couverture.
Là, c'est l'Ohio pour l'inconnu de Cleveland, de Tiboret, je n'ai pas précisé.
Et en fait... il fallait pouvoir résumer en deux phrases et provoquer l'envie au lecteur en librairie de prendre le livre. Et donc, il faut une accroche. Donc, il faut l'art de l'accroche mêlé à celui du titre, normalement, aide aussi beaucoup.
Là, c'est l'inconnu de Cleveland. Et donc, il y a marqué en dessous, effectivement, un suicide, aucune empreinte, aucune identité.
Voilà, c'est censé tout de suite, et enfin, dans les faits le plus positif, provoquer la prise en main du livre. Et du coup, le fait de le retourner et ensuite de lire la quatrième de couverture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une étape supplémentaire. Mais
c'est une vraie science.
Bah, c'est un métier. Le poche, pour le coup, c'est vraiment... Mais c'est ça qui est très rigolo, c'est qu'on peut rejouer aussi quelque chose. Quand un grand format est sorti, on peut le rejouer en poche. Là, en l'occurrence, la spécificité de cette collection, c'est qu'elle est inédite en poche. C'est-à-dire que le livre n'a pas déjà paru dans un format plus grand à un autre prix. C'est une édition qu'on fait directement au format poche et au prix poche, parce que c'était une volonté qu'on avait pour positionner la collection d'emblée sur un truc très, très facile d'accès.
Justement, le prix, oui, 7,50 €. Comment on fait ?
On
c'est le papier,
y croit.
C'est...
Non, alors
sur
c'est
quoi on joue ?
On joue sur plein de choses. Après, on a la chance d'être une maison d'édition de poche dans un groupe qui nous soutient. Enfin, moi, on a travaillé beaucoup avec tous les services transverses pour optimiser absolument tout sur la collection. Mais c'est sûr que c'est un enjeu financier important parce qu'on envoie les journalistes aux États-Unis faire une enquête. Donc, il y a vraiment, on leur paye un voyage là-bas, ils reviennent, on travaille. Alors, en plus, là, il faut aussi préciser qu'on travaille main dans la main avec Society, c'est-à-dire que Society nous propose un pool de journalistes très talentueux de leur rédaction avec qui on travaille. On choisit ensemble les sujets, parce qu'il y a tout l'art du sujet aussi. Mmh. Et on travaille avec Stéphane Régis, qui est un des rédacteurs en chef de Society, main dans la main pour éditer le texte, parce qu'il y a aussi tout un travail d'editing, ce qu'on appelle dans notre milieu l'editing, c'est-à-dire le travail sur le texte, la façon dont il est structuré, etc. Et la vraie différence, c'est que c'est pas un livre de journaliste, c'est pas un livre de fiction, c'est pas tout à fait un livre de narrative non-fiction, c'est quelque chose d'un peu hybride qu'on a inventé au fil de l'eau, parce qu'on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait lire avec Stéphane Régis. Et il se trouve qu'à chaque fois, on fait en sorte que le livre ressemble à l'idée qu'on avait, et à chaque fois, on y arrive. Pour l'instant.
Moi, je pensais que c'était un journaliste qui avait bossé dessus déjà, machin, et qui arrivait et qui disait « Moi, j'ai ça, je voudrais faire ça, je vous le propose, j'ai fait mon voyage, voilà, il y en a pourtant. » Non,
c'est une démarche.
C'est quasiment une démarche de rédaction, en fait.
Ah ouais, là, c'est un choix très identifié au départ par 18 et Society, de construire une collection. Donc, l'idée était de faire un livre par état, de cartographier les États-Unis, de cartographier le crime aux États-Unis. Et alors, la logique avec 10-18, c'était aussi de se dire 10-18 a été et est encore une maison d'édition extrêmement importante sur le segment de la littérature américaine, notamment la littérature américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. On a publié énormément d'auteurs cultes et on voulait se repositionner aussi sur ce territoire-là, mais plutôt du côté du polar. Et donc, on s'est dit que le crime et le fait divers permettaient de raconter les États-Unis autrement, ce qui n'avait jamais été fait chez 10-18 pour le coup, puisqu'on n'était vraiment que du côté de la fiction. Donc il y a un choix d'ancrer 10-18 et la collection dans le territoire américain.
Et à la fois, bah, ça complique les choses, parce que par exemple, la Californie, il y en a plein des fascinantes, des histoires. Vous en avez déjà fait une, donc vous ne pouvez plus en refaire. Et j'imagine qu'il y a des États où, bon, tant mieux pour eux, il n'y a pas beaucoup d'affaires de crimes passionnantes, quoi.
Ça dépend. En fait, il y a un mélange aussi sur lequel on travaille beaucoup avec Stéphane Régis, qui est de doser à la fois un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de sociologie, enfin, il y a plein d'éléments qui viennent se greffer là-dedans. Et il faut raconter le territoire, mais aussi en racontant des époques. Parce que, effectivement, quand on a choisi la Californie, on choisit certes la Californie, mais la Californie des années 70-80. L'Ohio, on est au début des années 2000, ce qui est aussi une époque fascinante, en fait, qu'on simplifie un peu à tort parce qu'on a l'impression qu'on la connaît, mais en fait, elle est hyper intéressante parce qu'elle est charnière. Et pareil pour New York, l'affaire Alice Crimmins, c'est les années 60 à New York. Les années 60, c'est une histoire du féminisme en soi que ça raconte.
Mais pourquoi c'est tellement fascinant ? On va y répondre dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Elsa Delachère, la responsable éditoriale chez 10-18 d'une collection qui s'appelle True Crime avec Society, le magazine, vous savez, et donc qui s'occupe d'affaires criminelles aux États-Unis. Un journaliste part aux États-Unis, il y a un état pour chaque bouquin, chaque affaire. Il y en aura donc 51, je ne sais plus. Et il revient avec une histoire de crime fascinante, une histoire vraie, qui raconte à la manière d'un roman, mais tout est vrai, c'est un vrai travail de journalisme. Et là, par exemple, dans L'inconnu de Cleveland, qui se passe en Ohio, ça commence avec le flic qui est en train de boire son café et qui tout à coup reçoit un appel qui lui demande d'aller voir si d'aller recueillir il y a eu un cadavre et tout, il faut qu'il s'occupe d'une affaire. Bon bref, je veux dire, il y a même une référence à L'Arme fatale au début parce que c'est un couple de flics qui ressemble un peu à Riggs et Murdoch dans L'Arme fatale. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du style et c'est raconté avec style. Mais c'est vrai que ça surfe sur une fascination qu'on a depuis longtemps, mais ça s'est amplifié quand même ces 10 dernières années, allez, pour le meilleur et pour le pire, hein, pour le crime. Comment vous expliquez ça ?
Alors moi, je ne l'explique pas.
Pour le vrai crime, parce qu'il y a toujours eu Polar.
Oui, je pense qu'il y a une fascination pour les histoires vraies, clairement. C'est ancien. Enfin, vous avez sur Europe 1 le pape de la question, c'est-à-dire Christophe Ondelat, qui est quand même à l'initiative d'une vraie révolution de cette narration-là et de la façon dont on raconte ces histoires-là, dont on les met en scène.
Mais c'est vrai parce que Christophe, il ne commence jamais une histoire en disant « Nous sommes le 18 juillet 1900, gna 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 ». Il commence en disant « Vous le voyez le type là-bas ?» Et ça change tout, l'écriture.
Il sait hyper bien raconter ça. Et je pense qu'il y a un positionnement qu'il a adopté et qui est devenu sa marque de fabrique. Mais il y a vraiment un vrai savoir-faire, en fait. Après, je pense que les histoires de faits divers, elles ont toujours, toujours, toujours intéressé. Enfin, quand on regarde le succès de la presse du début du XXe, enfin, jusqu'au nouveau détective, il y a vraiment tout qui raconte toujours la même... Enfin, on remanie toujours cette matière-là, en fait. C'est une matière qui raconte tellement la société que la société en a besoin. Donc, il y a des phases, probablement. Là, clairement, l'été 2020 dont vous parliez avec le phénomène du double numéro Society dont ils ont vendu quand même 400 000 exemplaires, ce qui est monstrueux. Enfin, c'est un phénomène de presse écrite inégalé.
Des pénuries.
Oui, oui. Et puis, on voit la presse écrite souffre. Et là, on a vu que justement, tout le monde était à chercher son Society dans sa presse en vacances, quoi. Donc, ça dit bien que... Après, ça dépend des histoires aussi. C'est-à-dire que ça raconte cette histoire du Dupont de Ligonnès, c'est aussi parce que l'affaire est complètement hors norme et que l'affaire du Dupont de Ligonnès est hors norme. Mais clairement, il y a aussi un talent de narration, il y a une façon de raconter cette histoire qui était folle et le fait de l'avoir coupée en deux numéros, c'était une idée de génie.
Enfin, oui, et puis aussi, il y a la manière, le respect qu'il y a pour les victimes et les affaires. C'est pas juste un truc, on rigole, c'est fascinant, oh là là, c'est fou. C'est beaucoup plus que ça. Je me rappelle que le Dupont de Ligonnès, justement, moi j'y allais en courant les deux fois pour aller le chercher. Et dans le deuxième numéro, il y a un moment, on lit, j'étais à la terrasse d'un café, et un moment où il nous rappelle, les journalistes qui avaient fait ce numéro, qu'il y a eu des victimes, y compris des victimes indirectes, que c'est dramatique, que c'est vrai, que c'est vraiment horrible, et on arrête de rigoler, quoi.
Oui, non, mais
et
clairement...
C'est un peu ça dans la collection que vous publiez.
Bah, Alice Crimmins, par exemple, l'affaire Alice Crimmins, dont Anaïs Renavier a fait un compte-rendu exemplaire de cette histoire, qui est compliquée à raconter, elle n'oublie jamais, et notamment à la fin du texte, il y a un chapitre, moi, qui m'avait bouleversé quand on l'a édité, c'est ce rappel qu'en fait, à un moment, il y a deux enfants qui sont morts, voilà. Et on s'acharne contre une mère, mais la mère, elle souffre, et les enfants sont morts, et en fait, à un moment, les enfants passent complètement au second plan, médiatiquement, alors qu'en fait, évidemment, c'est crucial.
C'est pas juste une anecdote de machine à café ou de dîner. Vous nous racontez l'affaire Alice Crimmins tant que vous y êtes ?
Alors, l'affaire Alice Crimmins, c'est l'été 65. C'est une femme qui se réveille un matin chez elle. Elle est fraîchement divorcée. Elle habite dans le Queens, à New York, dans les grands ensembles du Queens. Et elle ouvre la porte de ses deux enfants. Et la fenêtre est ouverte et il n'y a plus d'enfants. Ils ont 4 et 5 ans. Ils ont disparu. Et c'est vraiment impossible. Ils habitent au rez-de-chaussée, donc c'est impossible de comprendre ce qui s'est passé, à part qu'on les a enlevés par la fenêtre. Et elle va appeler la police. Et très vite, la police va se mettre à la regarder comme la première coupable, parce qu'ils trouvent qu'elle pleure pas assez, en fait. Elle est trop maquillée, elle a pris le temps de se maquiller avant qu'ils arrivent.
Et puis on est en 65, elle a des amants et tout.
Voilà, elle a une histoire extrêmement libre, en fait. C'est une femme libre. Et elle défie assez vite la police. En fait, elle s'en fout. Et ça va se refermer. Enfin, le piège va se refermer sur elle parce qu'en fait, elle va très vite être la proie absolue de cette société totalement patriarcale et misogyne. Et donc, elle va être la victime, la première victime de cette histoire, en fait.
Et des médias et des photographes. Ouais. Et tout. Il y a des photos. C'est...
Ouais. Non, mais on voit la
détresse, quoi.
Ouais, absolument. Mais du coup, c'est un fait de société. Là, on n'est plus dans le fait divers, on est vraiment dans la. Enfin, ça raconte la condition des femmes dans les années 60 dans l'État de New York, en fait. Et en même temps, ça raconte aussi un New York scorsésien avec des flics tous irlandais, catholiques. Enfin, il y a une ambiance extrêmement forte dans le Golden State Killer. Il y en a une autre.
Avec un flic en particulier qui a décidé qu'elle serait coupable et qu'elle finira en prison.
Absolument.
C'est Alice Crimmins.
Ouais.
Pardon, je vous ai coupé, parce qu'effectivement, il y a le Golden State Killer, qui est le deuxième roman qui se passe en Californie. Une histoire incroyable aussi. Vous nous donnez un peu le début, pareil ?
Alors là, c'est pareil. C'est un homme qui commence par des cambriolages, puis des cambriolages de plus en plus sérieux. Il commence à maltraiter des animaux, et puis après, il y a des viols, et puis après, il y a des meurtres. Et en fait, c'est 42 ans de traque, parce que le coupable, en fait, itinère dans l'État de Californie. Et du coup, on va le perdre, et on va avoir du mal à ramifier toutes les affaires entre elles. Et c'est à la faveur d'un test ADN en 2018, qui est complètement dément et complètement hasardeux, finalement, dans toute cette histoire, qu'on va arrêter un vieil homme. Et je ne vous raconte pas la suite, parce que c'est vraiment fou. Et il faut lire, tous ces livres pour comprendre l'intensité de ces enquêtes.
Et justement, c'est ça ce qui est fascinant. C'est un peu le point commun. On va venir au dernier arrivé, là. Mais c'est des histoires de flics aussi.
Oui.
En particulier dans le Golden State Killer, c'est une affaire qui a traumatisé plusieurs policiers qui se sont succédés sur cette affaire, qui se sont refilés l'affaire, mais quasiment, ils étaient pas, on leur retirait pas l'affaire, pas vraiment, c'est plutôt eux qui disaient non, j'en peux plus. Il y en a même, le Golden State Killer est venu à passer la tête par la fenêtre de la chambre du fils d'un des policiers qui enquêtait sur lui. Et le policier a dit non, c'est terminé, hop. Et tous se sont succédés comme ça avec ces affaires incroyables.
Oui, non, mais c'est des histoires d'obsession, en fait. Et c'est des obsessions de flics, de détectives. Dans L'Inconnu de Cleveland, Thibaut Reiss raconte très bien aussi la façon dont des personnages de détectives s'emparent de l'histoire. Et finalement, ça devient les obsessions des journalistes aussi. C'est-à-dire que les trois journalistes qui ont travaillé sur cette collection, Anaïs Renevier, William Thorpe et Thibaut Reiss, sont eux-mêmes aujourd'hui habités par des histoires. Parce qu'en fait, effectivement, c'est des sujets qu'on a élaborés avec eux. Ce n'est pas des enquêtes qu'ils avaient faites avant. Mais en revanche, Anaïs Renevier évoque très souvent Alice Crimmins. Enfin, il y a une façon dont ces livres sont portés aussi par des auteurs qui... écrire un livre, ce n'est pas comme écrire un article, en fait. Et eux tous ont engagé beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire. Et c'est vrai que le résultat est bluffant parce qu'ils y ont cru et que c'est des histoires qui portent en eux maintenant, quoi.
Bah, tiens, on va visiter les coulisses dans un instant. On va s'intéresser à savoir comment s'est fabriqué ces livres-là sur Europe 1. À tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est livre, toujours avec Elsa Delachère, responsable de la collection True Crime chez 10-18. Donc des livres format poche qui racontent à chaque fois une affaire, un fait divers aux États-Unis, dans un état à chaque livre, ça changera à chaque livre. Donc il y en aura une cinquantaine. Là, c'est l'Ohio, L'Inconnu de Cleveland, qui est apparu cette semaine, signé Thibaut Reiss, donc chez 10-18, mais c'est en partenariat avec Society, parce que ce sont donc des journalistes qui collabore avec Society. Comment vous envoyez qui aux États-Unis? Comment ça marche? Quelles sont les consignes?
Alors, il n'y a pas de consigne. En fait, on prend beaucoup de café avec Stéphane Régis, le rédacteur. Et on discute beaucoup. Et en fait, on réfléchit autour des auteurs dont il peut, lui, proposer des noms, parce que c'est surtout la rédaction de Society. Donc, c'est des gens qui gravitent autour de la rédaction. Et ensuite, très vite, on cible un territoire. Donc là, on commence à avoir déjà déblayé les gros marronniers, c'est-à-dire la Californie et New York. Donc là, on se dit, OK, est-ce qu'on a envie de forêt, est-ce qu'on a envie de sud, on veut raconter les États-Unis, donc il nous faut aussi des affaires qui sont très liées à l'imaginaire collectif. Il nous fallait un serial killer, il faut qu'on ait aussi une histoire qui traite du racisme, du Deep South des États-Unis. Donc, enfin bref, il y a plein de choses qui viennent résonner à chaque fois. Et tout ça mêlé, on trouve ensemble et on lit chacun un certain nombre d'articles de presse américains, aussi de livres en lien avec ça. Enfin, on surveille un peu tout ce qui se passe sur le marché du true crime, parce que c'est un marché en soi. Et aussi bien du côté du journalisme que du côté de l'édition. Et ensuite, on en parle et on affine, en fait. Mais on avance pas à pas. Et c'est ça qui est très rigolo, par ailleurs. Moi, j'ai jamais autant adoré bosser sur une collection. C'est vraiment très marrant à faire.
Mais il y a un temps limite pour les journalistes. Comment ça se passe? Parce que ça coûte une fortune. Il faut partir aux États-Unis. Il faut y rester un peu. Il faut aller voir les gens. Peut-être faire un peu de route à chaque fois et tout. Les gens peut-être qui étaient dans l'état au moment de l'affaire sont peut-être dans un autre état maintenant. Ça veut dire qu'il faut aller les voir là-bas.
Alors, l'avantage, c'est qu'il faut là rendre un hommage absolu au talent et à la plasticité de ces jeunes journalistes qui sont tous très doués, c'est qu'ils encadrent un maximum de choses ici, ils travaillent beaucoup ici sur les recherches et un certain nombre de prises de contact qu'ils font ici, et ensuite ils partent. Le but, c'est, il n'y a pas de temps limité, il y a un budget limité. Donc après, ils se débrouillent comme ils veulent, mais nous, on a une enveloppe.
Ils peuvent rester un an s'ils veulent. Mais
voilà.
Bon.
Mais ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils ont ils sont extrêmement malins et débrouillards. Et moi, je suis à chaque fois fascinée quand ils reviennent et quand on débriefe au Café du Retour. Parce qu'en fait, ils ont vraiment vu un certain nombre de gens. Et puis après, maintenant, avec les visios et tout ça, ils peuvent prendre des contacts et puis faire des appels plus loin. Enfin, ça, c'est pas très dérangeant en soi. En fait, il y a vraiment un mélange de toutes les façons de travailler qui se joue à chaque fois.
Ce sont toujours des affaires réglées, en fait.
Non, pas du
non,
tout. Pas du
ce
tout.
Sera pas le cas.
L'inconnu de Cleveland, c'est très ouvert.
Oui, mais je veux dire, c'était début 2000, quoi.
Ah oui, alors là, en l'occurrence, oui. Mais en fait, les affaires sont quand même encore ouvertes en termes judiciaires. Après, non, ce n'est pas toujours le cas. Là, en octobre, on en a un autre dont le procès vient de se tenir. Le type a été condamné. Mais bon, en même temps, après, il y a peut-être un appel, il y a peut-être plein de choses. Donc, en fait, ça rebondit. Tout dépend aussi du moment où on choisit de situer l'histoire. Donc là, par exemple, celui du mois d'octobre qui sortira en octobre, c'est vraiment une affaire qui est en cours, enfin, qui vient de se terminer aux États-Unis. Le procès était en janvier, quoi.
On ne saura pas ce que c'est.
Non.
L'État.
L'État, c'est la Caroline du Sud.
Ah, je sais ce que c'est.
Il y en a plein. En fait, c'est ça qui est fou.
Comment vous choisissez les affaires? Parce que, par exemple, la Californie, vous avez choisi le Golden State Killer, mais vous auriez pu prendre, je ne sais pas moi, l'affaire la Manson Family, des choses comme ça.
Alors, on ne voulait pas des énormes trucs que tout le monde connaissait. Et en même temps, on voulait un serial killer. Donc, il a fallu doser les deux. Après, typiquement, il faut aussi des choses où ça puisse rebondir. C'est-à-dire où, vu la longueur... Parfois, on se dit, même très régulièrement avec Stéphane Régis, on se dit, là, il y a un article, mais il n'y a pas un livre, en fait. C'est-à-dire que 30 000 signes et 200 000 signes, ce n'est pas du tout la même chose à écrire. Donc, il faut qu'il y ait des rebonds narratifs. Et comme vous l'avez sûrement vu, mais les livres sont construits comme des polars, c'est-à-dire avec des cliffhangers en fin de chaque chapitre. Ça rebondit, il faut que ça twiste, en fait, pour que la lecture soit soutenue, que le rythme soit tendu. Enfin, c'est vraiment ce qu'on voulait.
Bah justement, ça, c'est sur la structure. Mais est-ce qu'il y a un travail sur l'écriture? Ou alors, c'est du journalisme aussi, ce n'est pas seulement... comme ça, de la narrative non-fiction, enfin, comme vous l'avez dit, c'est en plus carrément inédit, comme c'est autre chose. Comment vous travaillez sur le style? Est-ce que vous travaillez dessus ou pas?
Le style, il y a pas. Non, c'est vraiment leur style à eux. En revanche, ce qu'on a fait et ce qu'on a tenu à faire, c'est que il y a pas de jeu. Par exemple, le journaliste ne dit jamais je. Oui. C'est pas de la narration. Non, c'est ça. C'est pas de sang-froid. C'est-à-dire que le journaliste est à une distance à peu près équivalente dans chaque livre de son sujet.
C'est pas aussi subjectif que de la vraie narrative non-fiction à l'aide de sang-froid ou à Emmanuel Carrère. Quoi.
Surtout pas, enfin, ça ne va pas chercher dans leurs histoires personnelles. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est du dosage très journalistique. Après, il y a une langue qui est la leur, mais après on retravaille et surtout on travaille sur la structure et la façon de raconter. Parce qu'une histoire, il y a mille façons de la raconter en fait. Et à chaque fois, on travaille sur comment on y entre et comment on en sort et à quel moment on choisit de mettre un rythme qui est de toute façon, comme dans n'importe quelle histoire, qui est reconstruit en fait.
Mais vous travaillez longtemps sur les livres ou c'est un peu le côté paperback, c'est-à-dire on le fait vite, quoi, parce que c'est comme ça, c'est le format, c'est le style. Ils sont très très bien travaillés, attention, c'est pas ce que je dis, mais parfois ça marche très bien comme ça aussi, quoi, le côté immédiat. Ou alors, est-ce que c'est ciselé? Est-ce que c'est vraiment beaucoup de temps? Vous prenez très, très en amont?
Non, l'immédiateté, elle est illusoire. C'est-à-dire qu'on travaille fort pour que ça ait l'air et que ce soit facile à lire, en fait. Ça doit se lire vite, mais ça se travaille longtemps, en fait. Il y a un vrai dosage, parce que clairement, pour que ça rebondisse bien, ça sort pas comme ça du premier jet. Après, clairement, les auteurs sont très, très doués et très vite, ils comprennent. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que comme les premiers sont écrits, les journalistes qui commencent la collection avec nous, ils voient les références et il y a un positionnement qui est maintenant assez simple.
Ouais, c'est plus facile, ça va être de plus en plus facile.
Ce qu'on a voulu aussi, c'est que le livre soit un vrai projet en soi. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un petit QR code qui renvoie vers un cahier photo en ligne où on peut prolonger l'univers de l'enquête.
Ah oui, alors ça, j'aime pas trop, moi. Les QR codes dans les bouquins, ça fait un peu... On se dit que dans 15 ans, on ne saura plus ce que c'est qu'un QR code.
Possible. Enfin bon, c'est mon avis. Mais après, c'est qu'on n'avait clairement pas le budget pour mettre un cahier photo.
Oui.
Et donc, ce qu'on voulait, c'était aussi que les gens qui voulaient prolonger l'enquête puissent regarder des vidéos, des arrestations, des sons, enfin plein de choses qui sont liées aussi à la matière que les journalistes ont brassée en travaillant. Et puis après, on a aussi construit un podcast, parce qu'avec Society, on travaille aussi sur un projet de podcast. Donc en fait, on a fait un podcast où les journalistes sont interviewés à la fin par un autre journaliste et il raconte la fabrique du livre.
Ça a commencé, le podcast ?
Ouais, il est disponible sur les plateformes de podcast. C'est pareil, à la fin du livre, il y a des petites pages qui renvoient à ça et les noms sont indiqués à la fin du livre.
Génial. Et donc le prochain, Caroline du Sud, en octobre. Les 50 sont déjà choisis ?
Non. On en a choisi. Là, on est en train de lancer le 5 et le 6 pour début 2024.
Génial. Merci beaucoup et bravo,
merci.
Elsa Delachère. Et donc, l'inconnu de Cleveland. Bah, on n'a même pas raconté. Vite, rapidement, je le dis, ça commence avec un flic qui prend son café un matin et puis donc appelle. On lui dit qu'il y a un cadavre qui a été découvert dans un... Vous savez, ces grands espaces qu'on voit dans les séries ou les films, des sortes de mobilhomes collés les uns aux autres. Ça fait une sorte de résidence très bizarre comme ça. Bon, il arrive et puis il ouvre la porte. C'est horrible, il y a des mouches partout. Enfin, il appelle les services compétents, etc. Il rentre dedans. Le type, manifestement, s'est suicidé. Il s'appelait Joseph Chandler. On demande aux voisins, aux collègues, ce qu'ils en pensaient. C'était un ermite. Personne ne le connaissait vraiment. Et puis, on dépêche un détective privé pour retrouver les descendants, pour l'héritage. Et sauf que il découvre que Joseph Chandler, il n'existe pas. Enfin, en tout cas, c'était pas cet homme-là, puisque Joseph Chandler, c'est un jeune garçon qui a été tué dans un accident de voiture. Et le type qui s'est suicidé a pris son identité. Et surtout, on n'a trouvé aucune empreinte de rien du tout, ni sur sa voiture, ni dans son logement. Incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il cachait? Fou! Faudra lire pour découvrir. Merci beaucoup, Elsa Delachère.
Merci.
Dans un instant, visite de bibliothèque. Ah bah tiens, du polar. La bibliothèque de Franck Tillier, mais du polar de la fiction, cette fois, sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Franck Tillier, c'est l'auteur de polar plébiscité à chaque fois. Il revient avec La Faille chez Fleuve, comme toujours. On retrouve Charcot et la lieutenant Hennebel, les héros récurrents de Franck Tillier. Mais cette fois, j'en ai profité pour visiter ses livres à lui. Que lit Franck Tillier ? Réponse. Bonjour Franck Tillier.
Bonjour.
Merci de nous accueillir, pas chez vous, mais chez Sandrine Babu. À la librairie L'Instant, notre Sandrine Babu de l'émission, quoi, qui nous prête la librairie parce que vous n'habitez pas Paris et moi, je ne peux pas aller trop loin. J'ai mon petit budget comme ça, je serais bien allé chez vous, mais je ne peux pas. Donc, vous avez accepté de venir avec vos livres chez Sandrine au cas où il nous manque d'autres classiques. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous décrire comment c'est rangé chez vous les livres ?
Alors, les livres, j'en ai beaucoup dans mon bureau, dans l'endroit où je travaille, parce que j'ai un endroit... rien qu'à moi, ce qui n'a pas toujours été le cas quand j'ai commencé à écrire. Je partageais un peu la pièce avec la télévision, avec le bureau de ma femme. Donc, voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un endroit où je peux écrire. Et ma bibliothèque, la majeure partie de ma bibliothèque est tout autour de moi, derrière moi, sur le côté. Parce que c'est vrai que j'aime bien être au contact des livres, les voir quand j'écris, puis toujours me dire... Ça m'arrive de me lever pendant que j'écris, puis d'aller un peu la parcourir. Donc voilà, il y a ce besoin-là. Puis après, j'ai des livres un peu à l'étage aussi, dans des présentoirs que j'ai récupérés dans les librairies. Parce que justement, à l'étage, on trouve aussi mes propres livres, qui prennent quand même de la place. Tous ces exemplaires à la fois traduits dans différentes éditions que je garde... précieusement pour mes enfants, en fait, voilà, pour garder une trace aussi de ce que j'ai écrit.
Alors, c'est moins rigolo pour moi parce que je ne peux pas fouiller ou trouver des trucs bizarres et tout, mais à la fois, c'est bien, j'aime bien cet exercice parce que dans ces cas-là, l'auteur arrive avec ses livres et tout à coup, paf, d'un seul coup, j'ai votre portrait, ce qui est un peu ce qu'on essaye de faire dans cette séquence. Oui. Et là, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Il en manque, je vous dirai lesquels.
Ah oui.
Mais... enfin, je vous dirai lesquels selon moi.
Bah oui.
Mais il y a beaucoup de choses très franctiliesques. Il y a Frankenstein, on va en parler. Il y a évidemment Stephen King, on est obligé. Et puis, il y a un livre que je ne connais pas. Mais je crois, vous me l'avez rappelé avant qu'on allume le micro, que vous m'en aviez déjà parlé dans une autre émission. Vous étiez venu parler de votre roman, mais on avait parlé de ce livre aussi, qui s'appelle Ripley, de Ken Grimwood, au seuil. Et Sandrine Babu, quand elle l'a vu, quand vous l'avez sorti, elle a fait « Ah, c'est culte, ça !» Oui, vous pouvez nous, nous dire pourquoi vous l'avez pris.
Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en parler, parce que les gens, effectivement, ne le connaissent pas. Et moi-même, d'ailleurs, je ne le connaissais pas. En fait, c'est un livre qui m'a été conseillé, enfin, offert par un copain qui connaissait mes goûts. Il m'a dit, il faut absolument que tu lises ce livre. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un livre qu'on essaye de transmettre aux personnes qu'on aime et dont on connaît un peu les goûts pour la lecture. Alors, c'est vrai que Ken Grimwood, auteur américain, n'a pas écrit beaucoup de livres. Il est décédé assez jeune. Mais il a écrit ce qu'on peut considérer comme un livre culte du voyage dans le temps, un livre fantastique extraordinaire. Moi qui adore les récits de destinée, de voyage dans le temps, je suis vraiment tombé amoureux de ce livre. Et je trouve que c'est injuste que les gens ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que dès que j'en ai l'occasion, j'en parle à tout le monde.
Ripley de Ken Grimwood, c'est quoi en gros le pitch?
En fait, c'est l'idée que tout auteur adorerait avoir. Sur le voyage dans le temps, c'est un homme ordinaire qui est dans son bureau et qui, à l'âge de 44 ans, meurt d'une crise cardiaque. Il est même au téléphone avec sa femme. Il est en train d'avoir la crise cardiaque et il se réveille dans sa chambre d'étudiant à 18 ans en ayant le souvenir de sa vie de 18 ans à 44 ans. Et donc, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il va revivre cette vie-là jusqu'à ses 44 ans où, à nouveau, il va remourir et se réveiller. Donc, il va comprendre un peu le mécanisme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il va essayer de choisir la meilleure vie qu'il va estimer être à un moment donné, c'est-à-dire c'est l'histoire de la seconde chance, de se dire la vie que je viens de vivre, elle n'était pas terrible. À sa première, il se dit je vais être riche dans cette vie-là, dans cette autre vie, puisque je vais mourir, je vais faire tous les excès possibles et inimaginables. Et c'est génial parce que il y a toute une mécanique aussi dans l'intrigue, c'est remarquablement construit. Il y a des gens comme lui, il va se rendre compte qu'il y a des gens comme lui.
Et à chaque fois, il se réveille à 18 ans, quoi.
Ouais, il se réveille à 18 ans dans la même chambre. C'est un peu le.
C'est un jour sans fin, mais c'est 26 ans sans fin, quoi.
Ouais, c'est ça. Version longue, avec, c'est quand même cette épreuve de mort à la fin, à l'âge de 44 ans, qui est quand même une douleur. Il sait qu'il va avoir une crise cardiaque. C'est assez terrible de se dire que tout ce qu'on construit, on va devoir. Ça va recommencer. Donc, il y a l'aspect du perpétuel de se dire, mais quand ce truc va s'arrêter, il y a un aspect un peu de malédiction. Et voilà. Et donc, finalement, il y a une vraie morale aussi de se dire, finalement, quelle est la meilleure vie? Est-ce que la meilleure des vies, finalement, c'est pas celle qu'on vit la toute première?
Je sais pas quelle année c'est, mais ça fait un peu cette édition-là, en tout cas années 80, avec le portrait de l'auteur. C'est très américain, ça. On voit, il a son menton sur le poing, comme ça. Oui. Et puis il nous regarde un peu, genre, pardon, j'étais en train d'écrire.
Oui,
et ça me fait penser aux séries télé aussi de cette époque-là, où on voit le scénariste qui tape à toute vitesse, là, le barbu.
Oui, on est encore au temps où on écrivait les livres à la machine à écrire. Ça se passe en 88, donc je pense que c'est sorti juste avant que les ordinateurs arrivent. Et puis voilà, il y a aussi une description de l'Amérique, parce que ça se passe aux États-Unis dans les années 60.
86.
Oui, il est sorti en 86. Donc il y a aussi tout ce portrait de l'Amérique dans cette période-là. Donc c'est vraiment plus qu'un simple roman de fantastique. Enfin, et quand on construit des histoires comme moi, on trouve que le concept est vraiment remarquable et l'idée est géniale. Et donc, dès que j'en ai l'occasion, c'est un roman que j'aime beaucoup partager.
Mais justement, vous avez dit, c'est l'idée qu'un auteur rêve d'avoir. Vous en avez eu plein d'autres.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le voyage dans le temps, pour un auteur, même si c'est fascinant, on se dit, laisse tomber, tout a déjà été fait sur Voyage dans le temps.
Oui.
Comment vous faites? Parce que vous avez aussi écrit sur le rêve, sur la mémoire. On pourrait dire aussi que tout a déjà été fait. Qu'est-ce qui fait la différence? À quel moment vous vous dites, oui, ça a déjà été fait, mais moi, je vais le faire de cette manière? C'est un peu différent? Ça ressemble à ci ou pas?
Oui, c'est vrai que tous les sujets, depuis les Grecs, la tragédie grecque, et puis même Shakespeare, enfin, tous les grands sujets ont déjà été traités. Et le voyage dans le temps, c'est arrivé un peu plus tard. Mais c'est vrai que ces grandes idées-là, elles ont déjà été traitées. Après, ce qui fait la différence avec un auteur, c'est la manière dont il va se rapproprier le sujet, mais comme un chanteur se rapproprie une grande chanson. et y apporter sa touche, son univers, ses personnages. Évidemment, il y a les personnages. Il y a l'époque aussi, c'est-à-dire qu'une histoire de voyage dans le temps, dans les années 1920, on ne la raconterait pas de la même façon aujourd'hui avec toutes les avancées scientifiques. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai plus peur, moi, de me lancer dans des... d'écrire des histoires autour, effectivement, de l'amnésie, qui sont quand même, par exemple, des thèmes hyper classiques dans le roman policier, mais je me le rapproprie. Je vais creuser d'autres sujets autour de la mémoire et ça donne des histoires complètement nouvelles et différentes. Et c'est ce qui fait un peu, justement, la marque de mes romans, c'est d'avoir mon univers à moi qui sera différent de celui d'un autre auteur.
Ben justement, vous avez beaucoup écrit sur la mémoire, sur les rêves, sur des étapes psychiques un peu décalées de l'auteur ou de celui qui est en train de lire, enfin bref. Mais il n'y a pas Shutter Island.
Ah oui, oui.
Qui est pourtant le bouquin là-dessus. Moi, je pensais que c'était votre livre.
Oui, alors c'est vrai.
Shutter Island de Nice Lehane.
Alors, bon, il y a toujours le problème du choix. Hein, c'est-à-dire qu'on a une bibliothèque devant soi qui contient quand même une majeure partie des livres qu'on aime. C'est très difficile de choisir. Bon, j'avais un petit sac, j'en ai ramené quelques-uns. C'est vrai que j'aurais pu prendre Shutter Island qui fait vraiment partie des livres que j'adore parce que j'aime beaucoup l'auteur. Et aussi dans ce récit qui est un vrai récit d'atmosphère avec des thématiques qui sont des thématiques sur lesquelles j'écris et que j'adore, avec un retournement de situation. Enfin, on trouve vraiment tous les codes, les caractères du thriller, avec cette partie historique, sur cette réflexion sur les camps. Donc oui, j'aurais pu le prendre, mais j'aurais pu en prendre d'autres.
Il aurait pu être là.
Oui, il aurait pu être là. Vraiment, il avait toute sa place, effectivement, parmi cette liste.
Sandrine, est-ce que tu peux me commander le Ken Grimwood replay ? Sauf si tu l'as en rayon. Mais... Merci beaucoup, Sandrine. Je le dis en passant, parce que sinon, j'aurais oublié. N'hésitez pas à boire votre café, il va refroidir.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que vous m'avez... Moi, j'ai envie vraiment de feuilleter tous les livres que vous avez amenés, parce que ce sont des... Alors, il y a du poche, voilà, du classique, mais il y a des vieilles éditions aussi. Et puis... On va parler de Frankenstein dans un instant, mais il y a un livre ancien comme ça, et c'est Des souris et des hommes de Steinbeck. Oui. Pourquoi ce roman-là, et pourquoi vous l'avez dans cette version bouquiniste, quoi ?
Alors, ce livre, il a une vraie histoire, et c'est extraordinaire, parce que c'est un livre qui a été envoyé un jour à ma maison d'édition, donc il me l'a retransféré chez moi. J'ouvre le colis, je trouve ce livre avec un mot à l'intérieur qui est incroyable, c'est le mot d'une lectrice qui est encore là, hein, je le sors du livre, et qui me dit, voilà, qui sait que ça fait partie de mes livres préférés, qui voulait m'offrir cette édition, alors qui est de 1930.
C'est vraiment. Ah oui, de l'époque, quoi.
De l'époque.
Première traduction.
Et voilà, je voulais lui rendre hommage parce qu'en fait, elle m'a envoyé vraiment une belle lettre où elle me dit que mes livres l'ont aidé à se sortir d'une situation difficile dans sa vie. Donc ça, quand on est auteur, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse avoir. Et elle sait que ce livre, ça fait partie de mes livres préférés. Mais en fait, elle m'a jamais laissé ses coordonnées. En fait, je sais qu'elle s'appelle Isabelle, qu'elle habite. Alors, je cherche la ville à Angers. Angers, donc qui me demande quand est-ce que je vais venir à Angers. Et voilà, donc je voulais lui rendre hommage, lui dire que j'ai bien reçu ce livre et vraiment qu'il m'a ému. Enfin, j'ai vraiment été touché. J'ai toujours eu envie de répondre. Et donc je le fais. Merci de m'en laisser justement l'occasion de lui dire qu'elle m'a touché au même point que mes livres ont pu la toucher elle. Et c'est ce qui me donne toujours un sens finalement à ce métier magnifique que je fais.
Magnifique. Isabelle, si vous nous entendez, il faut renvoyer une lettre à l'éditeur pour lui redonner votre adresse, tout simplement, que Franck puisse vous réécrire, quoi.
Oui, et puis je lui dire que je viendrai à Angers. Alors, je suis déjà venu en librairie à Angers. On a dû se manquer, mais je reviendrai en dédicace et j'espère la croiser, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie de ce qu'apportent les livres. C'est des histoires comme ça qui sont vraiment magnifiques.
Mais alors, Des souris et des hommes. On rappelle, c'est l'histoire de deux types qui cherchent du boulot dans les années de la Grande Dépression. Ils sont embauchés dans un ranch. Il y en a un, c'est Georges, qui est un petit mec trapu, courageux, mais un peu ronchon. Et puis l'autre, c'est Lenny, qui est une sorte de géant qui ne fait pas attention à sa force. Il aime bien les petites souris, par exemple, mais quand il les prend dans ses mains, il les écrase sans faire exprès. C'est un gentil simplet, en fait, quoi, mais adorable. Et il se passe des choses qui font que la gentillesse ne sera pas récompensée et que voilà, c'est les méchants gagnent, en général.
Exactement. Alors déjà, ce livre prouve que Steinbeck, il est capable d'écrire sur, vraiment n'importe quel type d'histoire, avec n'importe quel style. Ce qui me touche dans ce livre, c'est effectivement cette profonde humanité qui se dégage de cette écriture, qui est très, très simple, en fait. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, Steinbeck avait été critiqué pour cette écriture qui n'était pas jugée comme de la belle écriture, qui était vraiment du... Enfin, c'est vraiment du parler, comme on peut en trouver dans les campagnes à cette époque-là. Et ce qu'on recherche d'une lecture, c'est les émotions que va dégager l'histoire. Et moi, quand j'ai lu Des souris et des hommes, il y avait toutes ces émotions incroyables qui sont dégagées et qui font qu'un livre reste dans votre mémoire. Alors, c'est difficile à expliquer. Alors, si, on peut y arriver en disant, voilà, ce livre m'a rendu triste, il y a des images qui m'ont marqué. Mais ce livre-là, petit livre, hein, il fait 120, 130 pages. Deux personnages, on reste avec eux en permanence. Et on devient le personnage. Et c'est la force d'une histoire. Et voilà, j'y pense.
Et la fin est dingue.
Oui,
ça aussi, vous aimez bien.
Mais oui, la fin est dingue. C'est triste. Il y a la méchanceté humaine de ces deux personnes qui finalement ne voulaient rien d'autre que avoir mené une vie normale, avoir un petit lopin de terre avec des lapins. Enfin, il y a cette simplicité en fait dans les personnages, qui touche le lecteur que je suis finalement.
Alors encore plus étonnant, vous avez ramené Darwin de l'origine des espèces.
Oui.
Pourquoi dans une vieille édition pareille, bouquiniste, Flammarion.
Ça doit être une édition des années 1920. Alors pourquoi ? Parce que dans ma bibliothèque, il y a une grande partie des livres qui est consacrée à, on va dire, ce qui m'aide à écrire mes propres histoires. En fait, je me documente beaucoup pour écrire mes romans, notamment de science. Hein, il y a toujours une thématique scientifique. Et ce livre-là, il est important parce que c'est grâce à lui que j'ai pu écrire mon roman Gattaca, qui parle de l'évolution, de l'ADN, de d'où on vient et où on va finalement, c'est-à-dire de comprendre pourquoi l'homme, d'ailleurs toutes les espèces, existent sur Terre. Et moi, je faisais partie de ces gens qui avaient entendu parler de Darwin, de la théorie de l'évolution, de l'origine des espèces, mais voilà, sans savoir comment ça fonctionnait. Et ce qui est génial quand on écrit justement des romans et qu'on a du temps pour ça, parce que c'est mon métier, c'est de satisfaire sa propre curiosité aussi dans l'écriture, c'est-à-dire de me dire, mais j'ai du temps pour mon propre livre, d'aller assouvir cette soif de science. Donc ça a été l'occasion de lire ce livre, de découvrir comment ça fonctionnait. C'est fascinant, c'est-à-dire que ce ne sont pas des romans, hein, ce sont des livres de science, de biologie. Il y a tout un tas de thématiques et qui nous apprennent des choses sur notre environnement, qui nous apportent des explications de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que ça a été un enrichissement très, très fort. Après, la difficulté, quand on lit un livre comme ça, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de cette connaissance ? Comment je la retranscris en termes, on va dire, compréhensibles dans une histoire ? Et c'est tout le travail aussi de l'auteur que je suis.
Vous m'avez amené Frankenstein, c'était pour me faire plaisir, pour coller à votre image ou pourquoi ? Frankenstein, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne.
Oui, c'est ça. Et en fait, on oublie souvent la deuxième partie du livre. Frankenstein, bon, je l'ai lu deux fois. En fait, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Et c'est un roman qui m'avait fait très peur. C'est le monstre. Hein, c'est le roman du monstre qu'on connaît tous, hein, même visuellement, parce qu'il y a eu nombreuses adaptations. Et que j'ai relu dans le cadre de l'écriture de mon nouveau roman, qui, à sa manière, revisite un peu cette volonté de l'homme d'insuffler la vie et de surpasser un peu, quelque part, le Dieu créateur. C'est pour ça que d'où le Prométhée moderne dans Frankenstein, parce que
c'est l'homme qui se prend pour Dieu.
C'est l'homme qui se prend pour Dieu, mais qui est incapable d'assumer finalement sa création. Ce qui est fascinant dans l'œuvre de Mary Shelley, c'est que comment ce personnage, d'ailleurs, que les gens confondent souvent avec le monstre, en fait.
Avec le docteur, oui.
Oui, alors que
Frankenstein, c'est le nom du docteur.
C'est le nom du docteur, et les gens pensent que, parce que c'est rentré dans un univers collectif. Donc, la force de ce livre, là, c'est d'être rentré comme ça dans la culture populaire. Et c'est vrai que quand on est auteur, il y a aussi cette interrogation-là, quand j'ai relu le livre, de me dire, mais comment ça a été possible, à un moment donné, que ce livre devienne culte à un point tel qu'aujourd'hui, on parle de Frankenstein, même pour dénommer certaines choses. Et c'est vrai que c'est intéressant de relire aussi des livres. On ne le fait pas souvent parce qu'il y a tellement de livres autour de nous, mais qu'on a lu plus jeune, souvent de la littérature classique d'ailleurs, hein, qu'on a lu à l'école, et qu'on relit avec un regard d'adulte. Et évidemment, les deux regards sont complètement différents.
Et alors, évidemment, Stephen King, oui. Mais vous avez choisi Misery.
Oui, alors pourquoi ? Le huis clos, pour moi, parfait par excellence. Moi, j'adore les huis clos. Je suis fan de ce genre d'histoire. Un lieu, très peu de personnages, une ambiance. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on peut rechercher dans l'écriture et même en tant que lecteur, spectateur. Et Misery, oui, c'est en plus, c'est l'histoire d'un écrivain. Donc, il y a cette résonance aussi par rapport au métier que je fais. Donc, cet écrivain qui a un accident dans un endroit paumé, qui est mourant, qui se fait récupérer par
Paul
une
Sheldon.
Infirmière. Par une infirmière.
Annie Wilkins.
Annie Wilkins, la terrible, l'abominable Annie. Et en fait, le personnage a eu le malheur de tuer son héroïne, Misery, dans son dernier livre. Et elle ne s'en remet pas parce que c'est une fan inconditionnelle de cet auteur qui est là devant elle, sur lequel elle a plein pouvoir puisqu'elle le soigne, il a la jambe brisée. Et elle va exiger, c'était absolument terrifiant, qu'il fasse revivre cette héroïne qui l'a tuée parce qu'elle ne s'en remet pas, en fait. Donc c'est le pouvoir aussi que peuvent avoir c'est une réflexion sur le pouvoir que peuvent avoir les personnages qu'on crée, nous les auteurs, sur les lecteurs. Et c'est vrai que je m'en rends compte aussi, c'est stupéfiant, surprenant, quand je suis sur un salon, dans une librairie, et que des gens viennent me voir et qui me parlent de mes personnages comme si c'était des gens bien réels, en me disant, ben voilà, votre personnage, vous le mettez, Franck Charcot, par exemple, j'espère qu'il va bien. Donc, il parle comme si ce personnage existait. Et je pense toujours à ce livre-là, effectivement, en me disant, il faut que je fasse attention parce que je pourrais tomber sur une mauvaise personne.
Parce que c'est aussi la hantise du romancier, c'est ce que dit un peu Stephen King, c'est-à-dire son lecteur, sa lectrice en l'occurrence, qui devient complètement barge et qui l'oblige à écrire ce qu'elle a envie qu'il écrive. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations comme ça, avec des lecteurs un peu borderline?
Alors, des lecteurs borderline, ça m'est arrivé de voir des gens un peu étranges qui viennent, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, donc forcément, mais toujours bienveillant. Mais oui, les gens m'influent, moi, en fait, dans mon écriture, parce que j'écoute beaucoup ce qu'ils me disent. Alors, évidemment, il y a les gens qui disent « Ah, mais c'est bien !» Mais ce qui est intéressant, c'est quand les gens viennent vous voir et vous disent ce qui marche moins bien, ce qui leur a moins plu, parce que c'est comme ça qu'on apprend, en se disant « Ah, mais tiens, pourquoi, là, ça vous a moins intéressé ?» Et qui aussi vous donne des idées pour vos personnages, en disant « Mais là, c'était très sombre, votre personnage, il va pas bien, on aimerait bien qu'il se passe ceci, cela. » Et en fait, quelque part, ils sont en train de tracer, finalement, le destin de mes personnages, Franck Charcot, Lucienne Bell. J'écoute beaucoup ce que me disait Hector. Et c'est vrai qu'au moment où je suis en train de réfléchir au livre, j'ai ces petites voix de lecteurs qui me reviennent en me disant bah, « Tiens, c'est vrai qu'un tel a eu une bonne idée, pourquoi pas ?» Donc voilà, je suis très, très ouvert, mais c'est toujours très bienveillant parce que les gens, en général, qui viennent vous voir sont plutôt…
Vous n'avez jamais eu peur ?
Non, eu peur, non. Vraiment, j'ai jamais eu peur.
Surtout que c'est une littérature particulière, donc…
Oui, mais en fait…
On se dit que les tueurs en série doivent lire plutôt ce genre de roman, non ?
Oui, alors c'est la question qu'on voilà, on se dit forcément, qu'on se pose. Ça peut tomber aussi entre de mauvaises mains. Et puis c'est vrai qu'on peut apprendre un peu des techniques dans nos livres qui parlent quand même de violence.
Ah oui, vous avez déjà eu peur de ça, en revanche, de se dire ah, est-ce que je mets ça parce que ça pourrait donner des idées ou...
Oui, bah on se pose la question parce qu'on. Il y a ce phénomène autour de nous, de violence qui se développe. Donc, on écrit dans des histoires qui sont quand même assez. Dans lesquelles on propage un peu de violence hein, par des crimes, puisque ce sont des romans policiers. Et donc, on se dit, est-ce que nous, en tant qu'auteurs, en écrivant sur la violence, est-ce qu'on contribue à ce phénomène d'amplifier la violence? Mais finalement, quand on est artiste, écrivain, on va dire notre rôle, c'est de dépeindre le monde dans lequel on vit, comme un peintre le fait dans un musée. Et voilà, donc on décrit notre société. Dans la société, il y a la violence, donc on la décrit dans les livres. Et puis, on se dit, effectivement, il y a des grandes séries télévisuelles qui donnent des techniques. Donc, on se dit, à partir du moment où c'est devenu public, il n'y a pas de raison qu'on n'écrive pas dessus. Sachant que moi, j'ai quand même beaucoup de discussions avec des policiers qui me donnent des infos, mais qui me disent, ben là, il ne faut pas le dire, là, il faut le dire. Donc, je reste très respectueux de ça. Et je ne livre vraiment que ce qui est du domaine public, en fait.
Parce que parfois, c'est carrément le roman en entier. Stephen King, justement, il avait écrit un livre qui s'appelle Rage, qui est un super roman, comme toujours, mais qui a été retiré de la vente par Stephen King lui-même parce qu'on l'a retrouvé 3 fois chez des gamins qui venaient de faire une tuerie dans leur lycée. Ah, oui. La première fois, il a dit « Écoutez, c'est pas mes affaires, ça me concerne pas, je vois pas le rapport. » La deuxième fois, pareil. Et la troisième fois, il a dit « Bon, c'est toujours pas, je me sens toujours pas responsable ni rien, mais en revanche... » Mais ça commence à être gênant, donc je l'enlève.
Mais d'ailleurs, il y a, enfin, je sais pas si je vais peut-être pas citer son nom, je sais pas s'il aime bien qu'on le dise, mais il y a Xavier de Ligonnès avait été vu la dernière
avec
fois.
Avec Bernard Minier, avec oui, bah voilà, Glacé.
Oui,
avec son roman Glacé.
Avec son roman Glacé, la dernière image de Xavier de Ligonnès, du pont de Ligonnès, qu'on voit, c'est dans un hôtel, on le voit avec le roman Glacé à la main. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que cette histoire-là, un peu.
Vous pensez bien que je vais poser la question à Bernard Minier.
Oui,
j'adore cette histoire.
Oui, c'est extraordinaire quand même.
Et vous, ça vous, ouais, donc ça vous paralyse pas, ça?
Non, c'est. Voilà, on écrit une histoire, après elle appartient au public, et elle peut tomber entre toutes les mains. On le sait, on en a bien conscience. Après, voilà, moi je connais mes limites, je connais les sujets sur lesquels je ne l'écrirai pas. Ça reste des histoires policières, ça reste de la fiction, de l'imaginaire et un voyage que j'essaye de proposer au lecteur avec les codes du roman policier, dans lesquels, évidemment, il y a des armes du crime, il y a des scènes de crime qu'on décrit, puisque c'est aussi cette raison qui fait que les lecteurs aiment cette littérature.
Est-ce que ça ne vous a pas piqué un peu? Est-ce que vous n'étiez pas déçu qu'il n'ait pas plutôt un de vos romans du Pont de Ligonnès?
Oui, mais j'étais un peu jaloux. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise pub. Mais bon, voilà, c'était, il avait pris le Glacé. Peut-être qu'en hors caméra, il avait d'autres de mes romans. Enfin, il avait certains de mes romans.
Merci beaucoup, Franck Tillier.
Merci, c'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Et je rappelle, La Faille, c'est chez Fleuve Noir. Dans un instant, encore des livres. L'équipe de chroniqueurs nous rejoint pour des romans, BD et littérature jeunesse. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre, avec Sébastien Bordenave, évidemment, pour la bande dessinée, Héloïse Goy, la littérature jeunesse, et l'immense Thibaut Raden, notre libraire de la semaine. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Thibaut Raden qui vient de Vaucresson, librairie L'Écriture. Et donc c'est à vous l'honneur, mon cher Thibaut.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Ravage de Yann Manouk.
Pas de Barjavel, ça?
Non.
C'est un classique, Ravage de Barjavel.
Quelle culture, Nicolas. Non, c'est de Yann Manouk cette fois-ci. Et,
humour de libraire.
Exactement, c'est une blague de libraire, on adore ça de toute façon.
Et c'est Yann Manouk, c'est le frère d'André Manoukian, c'est pas ça, non?
Est-ce qu'on est...
Non, je crois, aujourd'hui, Nicolas.
Non, mais je crois. C'est possible.
Ah bon? Ah, c'est vrai?
Je crois.
Ok, d'accord. Je sais que Manouk, c'est pour Manoukian, mais je ne sais pas si c'est son
frère. Ah ben voilà, ça s'apprendra.
Ah. Et ben voilà.
Eh ben,
enfin,
y en a un qui fait la musique et l'autre qui est un peu vénère, en tout cas. Et celui qui est un peu vénère, c'est celui qui nous intéresse, je crois. Et Ravage raconte une histoire vraie, en 1930, d'une trentaine d'hommes qui vont chasser dans le Grand Nord un seul type. Parce que ce seul type aurait chassé sur des terres indigènes. Les indigènes se seraient plaints à la police locale. La police locale serait allée voir cet homme qui n'a pas ouvert la porte et qui a tiré sur le policier, qui aurait peut-être un peu tiré avant lui aussi. En gros, vous avez froid, donc c'est parfait pour cet été. C'est très très bien écrit. Il y a des vannes, parce qu'il arrive à faire des vannes là-dedans quand même, ce qui est assez fort. Et c'est un immense plaisir à lire. C'est de l'aventure, comme on peut en lire.
C'est souvent genre nature writing,
ouais, c'est ça.
À la Gallmeister, quoi.
Alors, ça aurait bien marché chez Gallmeister, mais je trouve que Gallmeister, il donne plus... Le grand rôle à la nature. Paulsen, il met l'être humain dans la nature, et c'est aussi pour ça que ça marche bien chez eux, parce qu'il y a des questions hyper intéressantes qui vont être posées humainement dans ce bouquin, et il le fait vraiment, c'est brillant, quoi. Je l'ai lu, je sais pas combien de pages il fait, il est assez épais, mais je l'ai lu hyper rapidement parce que j'avais envie de retourner dans cette nature, surtout qu'il arrive en plein milieu du bouquin à vous rajouter un personnage qui va être hyper important sans que ce soit gênant pour le rythme et tout ça. Enfin, non, vraiment, c'était brillant.
Il sait faire, le Thibaut Raden. Vous nous rappelez le titre?
Ravage, de Yann Manouk, et non par Javel.
Et c'est chez
Paulsen.
Ouais. Merci beaucoup, Thibaut. Héloïse.
Vous connaissez tous les Monsieur Madame.
Des Monsieur Madame.
Exactement, ouais.
Tout le monde connaît les Monsieur Madame. Une toute nouvelle collection vient de sortir. Alors, est-ce que vous savez de quand ça date, les Monsieur Madame?
Des années 50.
Ouais, ça date de plus de 50 ans. La série a été créée en 1971 avec Monsieur Chatouille, c'était le premier personnage. Et il a été créé par l'anglais Roger Hargreaves. Exactement, c'est celui qui a des bras gigantesques.
Parce que j'ai fait les gestes de bras gigantesques.
Oui, c'est ça. Alors depuis, Monsieur Madame, c'est la marque de livres pour enfants la plus vendue en France. 250 millions de livres écoulés dans le monde, tout de même. En tout, c'est 100 personnages différents et 100 personnages d'à peu près toutes les formes, toutes les coiffures, tous les caractères. Moi, j'ai voulu comprendre les raisons de ce succès phénoménal chez les petits et chez les tout-petits. Alors, j'ai demandé à Oscar, 2 ans et demi, pourquoi il aimait tant ces petits personnages colorés.
Parce qu'ils sont jaunes, vert, bleu, jaune, rouge, les dents de Madame Bonheur. Alors, on le lit.
Oui, alors il faut le lire. Je lui ai demandé, je l'ai interviewé et tout de suite, il voulait qu'on...
carrément parti sur le terrain et tout. Quoi.
Ah oui, oui, non, mais grand reporter. Alors, cette toute nouvelle collection de Monsieur et Madame a pour objectif de soutenir le développement social et émotionnel des enfants. C'est un peu nouveau, sachez, Monsieur et Madame. Vous savez que la pandémie a beaucoup impacté la santé mentale et notamment celle des enfants. Dites-vous qu'en Angleterre, un enfant de moins de 6 ans sur 18 est impacté par des problématiques de santé mentale. C'est beaucoup. Du coup, les 3 petits livres que j'ai aujourd'hui racontent aux enfants une histoire sur la persévérance, une sur l'anxiété et une sur la diversité. Alors, dans le livre sur l'anxiété...
Ça n'a plus rien à voir. Les monsieur, madame, tu vas y arriver. Les monsieur, madame, tu es inquiet.
Exactement, tout ça c'est nouveau.
Non,
sauf que.
Marre de cette époque de...
Mais non, on retrouve tous les personnages.
Ça y est.
Ils pètent les plombs. On retrouve tous les petits personnages. Par exemple, dans le livre sur l'anxiété qui s'intitule Tu es inquiet, on retrouve naturellement Monsieur Inquiet, qui a parfois la respiration qui s'accélère, mais on y retrouve aussi Madame Timide ou Monsieur Petit qui craint d'être ignoré parce qu'il est petit.
C'est des lots.
C'est ça, c'est ça, exactement. Heureusement, Monsieur Tranquille, en fait, ils se rencontrent tous, ça c'est sympa.
Ouais,
Monsieur Tranquille apprend à tous ces Monsieur Madame un super pouvoir. Prendre 3 inspirations lentes et profondes aide à calmer les gribouillis dans le ventre et à éclaircir les idées. Et ce petit livre invite les parents à interroger les enfants sur leurs inquiétudes à chaque page. C'est toujours aussi mignon, c'est très bien fait. Oui, vous voyez tous les personnages. Mais ça, c'est le cas dans tous les livres.
Hein. Bah oui. Mais c'était ça ce que je préférais, moi.
Mais voilà. Dire,
parce que c'est le côté collection. Il manque celui-là, il manque celui-là et tout.
Voilà, et comme ça, vous perdez pas trop la lignée des séries de Monsieur et Madame. On s'y retrouve bien. C'est toujours chouette, c'est drôle, c'est léger, joyeux, même pour les sujets moins joyeux, du coup. Et puis, il y a des conseils pour les parents en première page. Ça aussi, c'est dans tous les livres Monsieur et Madame, j'adore. On incite, par exemple, les adultes à ne pas hésiter à faire des grimaces et des pitreries pour lire ces histoires aux enfants. Gentil. J'ai essayé avec Oscar, ça marche très bien. Ce sont les nouveaux Monsieur et Madame qui viennent de sortir chez Hachette Jeunesse et c'est de 0 à 6 ans. Ça plaît vraiment. Et ça vous plaît toujours autant, Nicolas, donc ça marche bien.
Merci beaucoup, Héloïse Goua. Sébastien Bourdin.
Eh ben moi, j'ai un manoir pour vous aujourd'hui. Alors, petit rappel, un manoir. Un manga.
Ah, j'ai entendu un manoir.
Non, un manoir aussi, mais bon. un manga, c'est une BD japonaise. Un manoir, c'est une BD coréenne.
Ah oh, oui, vous l'aviez déjà dit, je crois.
Et oui, je le redis, c'est pas pareil parce que le manoir, ça se lit comme une BD de chez nous, alors que le manga, c'est de droite à gauche. Donc pour ceux qui ont du mal à lire les mangas, parce que c'est à l'envers, eh ben vous pouvez lire mon manoir. Et ça tombe bien parce qu'il est génial. Il s'appelle Les Darons. C'est un chef-d'œuvre d'émotion, de narration graphiquement. C'est d'une subtilité hallucinante. Le sujet, eh ben c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie, hein, la mesquinerie humaine et les bassins de l'âme. Alors c'est l'histoire d'une femme.
Mais alors pourquoi ça s'appelle Les Darons ?
Eh bien vous allez voir, parce que c'est l'histoire d'une femme, elle a la 50aine et à 1h du matin, elle envoie des textos à une autre femme qui est surnommée la fleuriste. C'est en fait celle avec qui elle est en concurrence amoureuse. Elles se sont toutes les deux emmourachées d'un gros loser. Alors les deux femmes s'insultent, elles s'envoient des textos, elles finissent par se donner rendez-vous pour se battre au parking du coin en pleine nuit. Comment j'en suis arrivée là ? Bah, c'est ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle va raconter, elle va tout balancer. Ses humiliations professionnelles, un patron lourd, un travail dur, elle nettoie les toilettes et surtout elle raconte aussi les confidences de ses amies quinca coréennes quant au karaoké, elles ont trop bu. On est presque embarrassé d'entendre toutes leurs confidences tellement elles sont brutes de décoffrage. Et puis, il y a un autre souci, c'est que, en fait, cette dame-là, elle a un boulet qui s'appelle... Bah, c'est son fils, en fait, qui est musicien, qui fout rien. Ouais. Ça s'appelle Les Darons. La BD est signée Yeong Shinma. Et quand on lit la dernière page, eh bah, on se rend compte que le fils musicien qui fout rien, eh bah, c'est l'auteur. Il a fini par trouver un travail dessinateur. Un jour, il a dit à sa maman « Raconte-moi ta vie », il lui a donné un cahier. Et bah, du coup, il n'a pas été déçu. Et nous non plus. Lisez cette BD magistrale. Elle est publiée chez Atrabile. Elle s'appelle Les Darons.
Magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien. Vous avez une citation peut-être ?
Allez, une petite citation de Yoko Tsuno. Yoko Tsuno, personnage mythique, premier personnage culte du dessinateur belge Roger Leloup. Elle dit, Yoko Tsuno, dans un album, « Une de mes forces, ne pas confier à un robot le soin de penser à ma place. » On est en 1972 quand même. Pas mal.
On y pense, ça, c'est en ce moment. Oui, effectivement. Thibaut, vous nous rappelez le titre ?
Ravage.
De Yann Manouk.
C'est pas de Barjavel, ça ?
Merci beaucoup. Merci à tous les 3, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Agnès, à Boris, à Mathieu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.